une violation de tout le droit international, aussi quelque chose qui devrait nous faire réfléchir, qui serait le droit international, en particulier les conventions de Genève, la Déclaration universelle des droits de l'homme, a été la réponse de l'humanité au nazisme. C'est justement après le nazisme, tout de suite après, que les peuples, les États ont dit plus jamais. On va créer des règles. On va créer des règles internationales et ce ne sera plus la force qui fait le droit, mais on va essayer d'imposer le droit, un droit, de dire un droit, de dire le droit, et d'essayer d'en faire les normes de comportement de la communauté internationale. Le mépris qu'il y a, par exemple, en Israël par rapport au officiel déclaré, le refus argumenté par le parquet depuis 1967 à la Cour suprême, que les conventions de Genève ne nous concernent pas. C'est aussi, pour moi, quelque part, cracher sur la tombe de nos grands-parents. C'est aussi oublier que c'était précisément ça qui devait être l'antidote à Auschwitz. Gaza, c'est la violation en concentré de tous les droits possibles et imaginables. Pour moi, Gaza, et je crois que on le voit dans les chroniques, c'est aussi une formidable leçon de résistance. Mais pas la résistance armée, pas les quelques roquettes ridicules, des pétards qui heureusement ont fait très peu de dégâts, heureusement. C'est pas ça la résistance de Gaza. C'est comment, malheureusement je ne peux pas y aller, mais comment les amis diplomates, et entre autres Stéphane essaie de me raconter tout de suite après sa visite à Gaza, cette vitalité. Comment 1,5 million de femmes et d'enfants coincés dans un territoire minuscule, c'est l'endroit où il y a le plus de densité, où la densité est la plus haute du monde, plus qu'à Hong Kong. Comment ils vivent. Ils vivent mal, mais ils vivent, et ils vivent pas, ils vivotent. Et alors, ce que cela choque, cela le choquera, moi ça, je trouve ça légitime, l'association que j'ai eue dans ma tête, je l'ai écrite dans une des chroniques, c'était le ghetto de Lodz. Le ghetto de Lodz où était coincé dans un tout petit espace près d'un million de personnes, et où c'était la vie normale. Le matin, il y avait une rafle, et on partait pour Treblinka, pour ne jamais revenir. Mais la vie continuait. La vie continuait, les écoles, le commerce, les bordels, les cabarets. Et pour moi, c'est extraordinaire, ça. Ça ne m'a jamais scandalisé. Que les gens qui savaient que le lendemain, eux, ou leurs voisins, ou leurs enfants, ou leurs frères et sœurs, allaient être pris et mis dans les wagons à bestiaux pour l'extermination, s'éclater, continuer à vivre et s'accrocher à la vie jusqu'à la dernière seconde. C'est Gaza dans une certaine mesure. On n'est pas là, c'est pas l'extermination à Gaza. Mais c'est malgré tout, malgré les difficultés, malgré les conditions de vie, malgré les bombardements permanents, les incursions israéliennes, rares aujourd'hui parce que l'armée israélienne courageuse n'est pas téméraire, on rentre assez facilement dans Gaza, on rentre facilement, mais pour en sortir, c'est pas évident. Pire en bonne santé. Malgré tout cela, il y a la vie, il y a la culture, il y a l'éducation, il y a de la joie. Et c'est ce que Stéphane Hessel m'a raconté, il y a, c'est ça, une leçon de vitalité. Alors, un mot sur le Hamas. Deux choses, une leçon de démocratie, une leçon de résistance. D'abord, Hamas est le parti politique qui a été largement plébiscité par l'ensemble du peuple de Palestine, à Gaza, tout autant qu'en Cisjordanie. La plupart des villes palestiniennes, aux élections municipales, que tout le monde a reconnu, aux élections démocratiques, une majorité de Hamas a été dans presque toutes les villes palestiniennes. Aux élections nationales, aux élections au Parlement, le Hamas a eu une grande majorité, une majorité relative, une grande majorité, beaucoup plus que le 14. Alors, le Hamas a même accepté, malgré la majorité qu'il avait, sous la pression, en particulier de l'Europe, d'accepter le principe d'un gouvernement d'union nationale pour, c'est-à-dire d'être sous-représenté au gouvernement d'union nationale où il serait minoritaire pour empêcher les sanctions internationales. Ils ont fait cela, et les pressions internationales, et en particulier les blocus de Gaza, n'ont pas été enlevés. Ce qui permet de comprendre aussi, pas uniquement ça, mais c'est un des éléments du regard qu'a une partie importante et grandissante de la jeunesse palestinienne sur l'Occident. Vous êtes tous des menteurs. On ne vous croit pas. Vous nous dites, si vous faites cela, vous aurez ceci, et finalement vous faites ce que vous voulez. Et sur cela se bâtissent des théories plus ou moins fausses sur le complot juif. Il y aurait quelque part à Washington, à New York, une force qui manipulerait les États pour Israël. Mais c'est face à cette grande injustice et cette incapacité de comprendre. Mais pourquoi vous faites ça? C'est pas juste. On a rempli notre part du marché. Pourquoi est-ce que vous ne vous mobilisez pas pour qu'on obtienne ce qu'on devait recevoir en échange? Cette politique de deux poids, deux mesures est au cœur de la montée de l'intégrisme, à Gaza comme ailleurs, pas seulement à Gaza.